France Inter.
To be or not to be, not to be.
Dark Vador qui révèle à un Luke Skywalker fraîchement manchot qu'il est son père, c'est shakespearien. Scar qui plante ses griffes dans les pattes de Mufasa avant de le faire tomber au milieu d'un troupeau de gnous, c'est shakespearien. Spider-Man qui découvre que l'assassin de son oncle Ben, c'est un voleur qu'il avait consciemment laissé filer auparavant, c'est shakespearien. Dans Game of Thrones, Cersei Lannister qui couche avec son frère jumeau Jaime, c'est dégueulasse, mais shakespearien. Buffy, la tueuse de vampires qui tombe amoureuse d'un vampire, c'est encore shakespearien. Edmond Dantès qui invente l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger, c'est Alexandre Dumas. Bah non, on va pas déconner, on a un métis français dans la littérature classique, on va pas refiler ça aux Anglais. César poignardé par Brutus, toujours shakespearien. Et c'est d'autant plus fort qu'à l'époque où c'est arrivé à César, Shakespeare n'était pas né. D'ailleurs, après « Tout coquet, mi fili », il aurait ajouté « Tu ne le sais pas, Brutus, mais on est hyper en avance sur notre temps ». Nesquik qui présente Quickie aux téléspectateurs sans savoir que Quickie va l'envoyer faire un voyage dont il ne reviendra jamais, c'est shakespearien. François Hollande qui nomme Emmanuel Macron ministre des Finances, c'est shakespearien. Mario Maréchal Le Pen qui vide les caisses du parti d'Éric Zemmour, c'est shakespearien. On disait, le silence qui suit Mozart, c'est encore du Mozart. Eh bien, ce qui s'est écrit après la mort de Shakespeare, c'est encore du Shakespeare.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
You killed my father. Big mistake.
Something is rotten in the state of Denmark. And Hamlet is taking out the trash.
Stay thy hand, fair prince.
Who said I'm fair?
No one's going to tell this sweet prince good night.
To be or not to be. Not to be.
On dit de la langue anglaise que c'est la langue de Shakespeare. Lorsque l'on évoque Game of Thrones ou Succession, on parle d'un drame shakespearien. Il est l'auteur le plus traduit au monde aux côtés d'Agatha Christie et Jules Verne. Pourtant, la vie de ce poète anglais reste relativement peu connue au regard de sa notoriété. William Shakespeare, c'était qui ? Mais surtout, un drame shakespearien, c'est quoi ? Quand on sait que son style a une influence sur un pan entier de la pop culture moderne. Pour tenter de comprendre tout ce que la narration doit désormais à Shakespeare, je suis accompagné par Clémence Pouletti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée en littérature.
Oui, tout à fait.
Avec nous également Sarah Tuel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en études cinématographiques et audiovisuelles à l'université Paul-Valéry Montpellier III et présidente de la Société française Shakespeare. Et vous êtes notamment l'autrice de L'écran shakespearien paru en 2022 aux éditions Rouge Profond.
Présidente d'honneur de la Société française Shakespeare. Je ne le suis plus actuellement.
D'honneur. Très bien. Avec nous également Jeanne Seignol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vidéaste et booktubeuse et vous tenez la chaîne YouTube littéraire Jeannot se livre.
Tout à fait.
Si je viens profaner de ma main, loin d'en être digne, cet autel sacré, ma pénitence sera douce.
My lips,
mes lèvres s'apprêtent comme deux pèlerins rougissants à effacer l'affront de ce rude toucher, leur attendre baiser.
Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main qui n'a fait que montrer dévotion courtoise, car les saints ont des mains que de ces mains tout pèlerin est en droit de toucher. Paume contre paume, tel est le pieux baiser des pèlerins.
Les saints n'ont-elles pas de lèvres, tout comme les pèlerins?
Oui, pèlerin, des lèvres qu'il leur faut garder pour prier.
Eh bien, chère sainte, fasse les lèvres comme les mains. Elles prient, exauce-les de crainte que leur foi ne se change en désespoir.
Une sainte demeure immobile, même si les prières sont exaucées.
Alors ne bouge pas, tandis que je recueille le fruit des miels.
Un extrait de Roméo plus Juliette, un film de 1996 réalisé par Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes, doublé par Damien Witeka et Caroline Victoria. Sarah Atuel, j'aimerais vous poser la première question, une question difficile, une question large, mais qui était William Shakespeare ?
Oh, William Shakespeare, c'est le dramaturge qui a le plus inspiré de réécriture, d'adaptation au cinéma, et qui est à la fois ancré dans son siècle, le 16e siècle, la Renaissance anglaise, et qui a essaimé dans la littérature, le théâtre, le cinéma. On connaît peu d'éléments factuels sur sa vie, et justement parce qu'il y a une part de mystère sur cette vie de Shakespeare, cela a alimenté les imaginations, on a pu projeter beaucoup de choses sur ce Shakespeare, et nul doute que cela a contribué à son succès.
Et justement, cette part de mystère, comment on l'explique ? Parce que par exemple, Molière, qui était lui aussi un dramaturge extrêmement connu, qui avait les faveurs du roi, on a quand même eu énormément de documents qui ont pu nous détailler justement les différentes étapes de sa vie, alors que pour William Shakespeare, on a l'impression qu'en dehors de son œuvre, il avait une sorte d'intimité, de vie privée qui était très bien préservée.
Oui, c'est vrai, mais on a quand même quelques documents, on a un testament, on a des registres, il y a quand même quelques documents, des documents aussi sur son théâtre. On sait très bien que Shakespeare était actionnaire de son théâtre. Il y a beaucoup de documents historiques là-dessus.
Clémence Pouletti, oui. Comment avez-vous découvert Shakespeare et qu'est-ce qu'il vous a apporté, qu'est-ce qu'il vous inspire ?
Oh, beaucoup de choses. Moi, j'ai découvert Shakespeare quand j'étais toute petite, parce qu'il y avait la comédie musicale Roméo et Juliette, et on m'a expliqué que c'était extrait inspiré d'une pièce de théâtre. Donc, dès que j'étais en âge de pouvoir un peu comprendre, parce que la première fois que j'ai lu Roméo et Juliette, je n'ai pas bien compris. Je trouvais ça hyper beau, hyper joli, mais je ne comprenais pas tout, il faut être honnête. Quand je l'ai relu plus tard avec l'aide d'une professeure, là, j'ai compris. Et il y a plusieurs choses qui m'ont un petit peu surprise, mais j'ai été totalement emballée par l'ambiance, par le vocabulaire, par les mots utilisés, j'y suis très sensible. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'aller voir Roméo et Juliette au théâtre, mise en scène par Nicolas Briançon, avec l'immense Neil Schneider et l'immense Anna Girardot. Et j'ai passé un de mes moments, je ne sais même pas dire à quel point, c'était un de mes moments préférés que j'ai passé au théâtre. C'est grandiose, Shakespeare. Et pour revenir, je voulais juste dire quelque chose sur Star Wars et Shakespeare. Je trouve que dans le Star Wars 7, 8, 9, les mal-aimés, moi j'aime bien, la relation entre Kylo Ren et Rey est également shakespearienne.
Oui, c'est vrai.
Très, très, très shakespearienne.
Oui, c'est vrai.
Il garde, puis même la relation de Kylo avec Han Solo, tout ça, c'est extrêmement shakespearien. Quand il reste jusqu'au bout.
Ah bah de toute façon, le mythe, le père a tué,
oui.
Dès qu'il y a une histoire de père a tué, en général, on n'est jamais très très loin de Shakespeare. Jeanne Seignolle, vous, votre rencontre avec William Shakespeare, comment ça s'est passé ?
Alors, ça a été beaucoup plus tard pour moi, ça a été quand j'étais en fac d'anglais, où du coup, on a lu beaucoup beaucoup de Shakespeare, et peut-être trop. Donc au début, il y a eu un peu ce sentiment d'avoir du mal à comprendre, parce que surtout de le lire en anglais, c'est quand même un petit peu difficile à aborder au début. Mais la vraie rencontre, elle s'est faite avec Roméo et Juliette. Peut-être parce que je suis une grande romantique et que j'aime les relations où, à la fin, ça se termine mal. Et c'est vraiment là où j'ai compris la beauté de Shakespeare. Et la deuxième rencontre, je dirais, elle s'est faite surtout en allant voir des pièces. Parce que ce que je trouve important dans le théâtre, c'est que le théâtre, ça se regarde. On n'a pas toujours l'opportunité de le faire parce que le théâtre, c'est pas toujours à des prix abordables. Du coup, moi, je me suis beaucoup réfugiée sur des pièces qui étaient sur Internet. Par exemple, c'est une de mes préférées qui s'appelle Coriolan, qui est interprétée par Tom Hiddleston. Bon, clairement, j'ai regardé d'abord pour Tom Hiddleston.
Oui, qui interprète également Loki au sein des films Marvel Studios.
Exactement.
Pour celles et ceux qui veulent savoir.
Et en fait, c'est là que la deuxième rencontre s'est faite et où j'ai vu la force en fait, du personnage, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et il y a notamment une plateforme qui s'appelle National Theatre at Home, où en fait on retrouve beaucoup des productions qui sont faites par le Théâtre National britannique, si je dis pas de bêtises. Et il y a plusieurs pièces de Shakespeare qui sont dessus, qu'on peut regarder depuis chez soi, et avec des personnes assez connues. Il y a par exemple Henri V, qui est joué par Kit Harington. Voilà, on refait le lien avec Game of Thrones. Et donc c'est assez agréable depuis chez soi aussi de pouvoir découvrir ces textes-là, alors que quand on les lit en solo, parfois c'est un peu difficile.
Sarah Atuel, on l'entend, j'ai moi-même découvert Shakespeare via des mises en scène, parce que j'étais en option théâtre, et donc on voyait énormément de spectacles, et c'est comme ça que j'ai découvert la langue de Shakespeare. Mais c'est vrai que souvent, on commence par étudier les textes, mais c'est avant tout un dramaturge, c'est quelqu'un qui se voit et s'écoute sur scène.
Oui, pour ma part, moi j'ai découvert Shakespeare, non pas sur scène, hein, mais dans un dessin animé, qui date maintenant, c'est Candy. Et dans Candy, elle rencontre un acteur shakespearien qui s'appelle Terence Grandchester et qui joue oui. Macbeth, le roi Lear, Roméo et Juliette. Et ça a été ma première rencontre, je devais avoir 6-7 ans. Et après, quand j'ai découvert Henri V de Kenneth Branagh au cinéma, là, ça a été la rencontre magique avec ce texte incroyablement puissant, cette force épique, parce que Shakespeare, c'est très fort, ça prend aux tripes, c'est à la fois du sang, des batailles, de l'héroïsme et de l'anti-héroïsme. Et à chaque fois qu'on dit, ben ça c'est shakespearien, vous voyez que on redéfinit en permanence ce qu'on entend par Shakespeare. Même cette émission, elle contribue à faire évoluer ce qu'on entend par Shakespeare.
Tout à fait, c'est exactement la volonté, donc je ne peux qu'aller dans votre sens. Et est-ce qu'on sait néanmoins dans quel milieu il a grandi ?
Alors, il a grandi dans un milieu très bourgeois, en fait. Son père était commerçant, gantier, il fabriquait des gants, il était dans le commerce de peau. Hein. On sait qu'il a été éduqué à l'école de Stratford-upon-Avon, donc c'était un milieu, on va dire, bourgeois populaire.
Évidemment, en préparant cette émission, je voyais que pour dans sa biographie, on voit qu'il s'est marié assez jeune avec Anna Thaouet. Et ensuite, il y a un énorme trou de 8 années où on ne sait pas trop ce qu'il a fait et on le voit réapparaître déjà acteur à Londres.
Oui, il y a un mystère sur ces années perdues, hein, the lost years, comme on les appelle. Et il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'universitaires qui essayent de glaner des informations sur ce que Shakespeare aurait pu faire. Certains pensent qu'il aurait été chambellan vers le Lancashire, dans le Lancashire. Plusieurs hypothèses là qui clashent.
Sarah Atuel, on voit que il y a eu des légendes urbaines sur voilà Shakespeare serait une femme. Encore aujourd'hui, il y a énormément de séries, de films, de bandes dessinées, même de jeux vidéo où on dit c'est shakespearien. C'est assez rare d'avoir un dramaturge qui a un nom qui peut être tellement de choses différentes.
Oui, c'est vrai, mais sur ces rumeurs, ce qu'il faut voir, c'est qu'elles ne commencent qu'au 19e siècle. Pendant plus de 300 ans, il ne fait aucun doute que Shakespeare a bien écrit ses pièces, hein, et Shakespeare, l'homme de Stratford. Donc, on voit que c'est à partir du 19e siècle où les idées romantiques sur l'auteur et sur l'autorité en littérature prennent leur envol, hein, que cette idée que Shakespeare ne pourrait pas être Shakespeare apparaît. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de préjugés de classe là-dedans, que on ne peut pas imaginer à partir du 19e, même milieu du 19e, qu'un homme issu du peuple, un petit bourgeois, ait pu écrire cette œuvre. Donc on commence à imaginer que ce n'est pas lui, que c'est forcément un noble, un aristocrate, quelqu'un de la haute société, vous voyez. Et donc il faut quand même se méfier de ces rumeurs et voir d'où elles sortent.
Très bien. Nous sommes ensemble pour parler de l'incroyable œuvre de William Shakespeare. Et pour le moment, on va écouter Kim Mazel qui nous interprète la bande originale de Roméo plus Juliette, Young Hearts Run Free.
Get the babies, she won't have your man while he is there.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Hamlet, mangez-moi.
Papa ?
Oui, je viens du monde des morts.
On dirait plutôt que tu viens du buffet.
Espèce de pitié. Mon fils, j'ai une terrible nouvelle. Sache qu'on m'a assassiné. On m'a assassiné, tu te rends compte ?
C'est vrai ?
Regarde, alors que je dormais, ton oncle Claudius a versé un poison dans mon oreille. Le plus ignoble des poisons. Il a pu alors épouser ta mère et devenir roi.
Et ça a été un super week-end.
Tu dois maintenant venger ton père. Venger ton père.
Comment ?
Mais je ne sais rien. Surprends-moi ! Surprends-moi !
Est-ce que ce fantôme obèse dirait vrai ? Il faut d'abord que je fasse avouer l'oncle Claudius, ensuite je le tuerai.
Il fait froid dehors, mais une petite laine, une petite laine !
Un épisode des Simpsons qui rejoue Hamlet, une pièce de 1623 écrite par William Shakespeare, un dialogue entre Homer et Bart, doublé en français par évidemment Philippe Pétieux et Aurélia Bruno. Clémence oui. Pouletti, j'aimerais vous poser une question. J'utilise l'adjectif shakespearien depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que ça signifie selon vous ?
Alors selon moi, en premier lieu, ça signifie romanesque. Ça signifie drame, tragédie, mais en même temps comédie. Ça signifie mille et une choses. Ça signifie le grandiloquent. Ça signifie aussi la vengeance. Ça signifie l'amour impossible. Ça signifie tellement, tellement de choses que c'est impossible de le résumer comme ça en quelques instants. Ce qui est formidable avec Shakespearean, c'est que on peut tout y mettre ou presque. Et puis c'est aussi un monologue, je pense, depuis le début de l'émission, quand on dit Shakespearean, je pense à le monologue Shakespearean de Vincent Delerme. Et j'aime beaucoup cette idée de, disons à la moitié d'une pièce, qu'il y a un grand monologue. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de grand, de grandiloquent, d'immense. En fait, Shakespearean, c'est aussi ce qui nous dépasse. À mon avis.
Jeanne ?
Je trouve qu'en fait, on peut un peu tout mettre derrière. Et c'est comme si Shakespeare avait tout fait et que depuis, on fait que du recyclage. Je repensais par exemple à Roméo et Juliette, cette idée de l'amour impossible. On le retrouve aujourd'hui énormément dans la littérature new romance et dark romance. C'est quelque chose qui est hyper, hyper présent. Et en fait, ça vient de Shakespeare plutôt à l'origine. Et sur cette question des œuvres qui sont inspirées de Shakespeare, moi, il y a beaucoup de films de mon enfance, par exemple. Finalement, j'ai découvert Shakespeare plus tôt, sans m'en rendre compte, comme on parlait tout à l'heure du Roi Lion. Mais aussi, je pense à un film qui s'appelle She's the Man, qui en fait est inspiré de La Nuit des Rois, et où c'est une jeune femme qui va remplacer son frère dans son équipe de foot, parce qu'elle n'a pas le droit de faire du foot, etc. Donc je trouve qu'il y a plein d'exemples en fait, qui montrent que, limite, quand on n'a pas trop d'idées, par exemple, au cinéma, on peut aller piocher et récupérer un peu de Shakespeare.
Sarah Tuel, en réfléchissant à la définition de l'adjectif shakespearien, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que Shakespeare a une sorte de facilité à écrire sur le pouvoir, sur les vicissitudes et les grands drames, mais liés au pouvoir. Là où Molière, par exemple, arrivait à écrire la vie de bourgeois, de gens qui se voient au-dessus de leurs conditions, mais c'était monsieur et madame tout le monde, j'ai l'impression que chez Shakespeare, c'est toujours des grands personnages iconiques. On se souvient d'Othello, on se souvient d'Iago, même des fois, on ne sait même plus de quelle pièce c'était tiré, mais on sait à quoi correspond Caliban. Est-ce que c'est aussi ça, c'est le drame shakespearien, c'est le drame aussi des puissants.
Oui, il y a en fait toutes les strates sociales chez Shakespeare. On a les rois, mais on a aussi les clowns et les paysans. Tout le monde se croise en fait dans le drame shakespearien, et c'est pour ça qu'il y a des intrigues croisées. Contrairement au théâtre français, il n'y a pas du tout d'unité de lieu, de temps ou d'action chez Shakespeare. Les intrigues narratives sont plurielles. Il y a des jeux sur les identités, sur des perspectives multiples. On peut voir on peut adopter le point de vue de personnages en alternant ainsi leur perspective sur les événements. Il y a des fins ouvertes, une écriture de l'entre-deux en fait, et des négociations culturelles en permanence. Et j'aime bien l'idée d'excès, hein, c'est Shakespeare, hein, ça a été déjà dit, ce que shakespearien peut évoquer en termes de grandiloquent, d'excès. Mais j'ai entendu aussi que tout était dans Shakespeare, comme si Shakespeare avait tout fait. C'est très vrai, d'autant plus qu'en fait, Shakespeare a beaucoup lui-même emprunté et recyclé des histoires qui existaient avant lui. En fait, Shakespeare est un passeur d'histoires. Il a repris les grands mythes de Ovide, par exemple, les grands mythes antiques, les romans qui avaient du succès à son époque. Les histoires des empereurs romains, c'est repris dans Shakespeare. Donc Shakespeare emprunte, et ce qu'il apporte surtout, c'est sa langue. On ne saurait jamais assez dire combien la langue de Shakespeare, la poésie, ce texte extrêmement riche, hein, en vocabulaire. Vous avez commencé par dire que l'anglais est la langue de Shakespeare, mais parce que Shakespeare a beaucoup contribué à cette langue en inventant un vocabulaire nouveau pour l'époque, hein. Il a beaucoup créé de mots qu'on utilise encore de nos jours. Donc il y a tout ça avec Shakespeare.
Et quelle est votre pièce favorite? Si jamais vous deviez conseiller une pièce de Shakespeare à quelqu'un qui serait un petit peu rétif, quelle pièce vous conseilleriez?
C'est très subjectif, hein. Moi, c'est Hamlet. J'ai une préférence. C'est-à-dire, on a l'impression que tout se trouve dans Hamlet, que toutes les situations qu'on peut vivre, de l'enfance jusqu'à la vieillesse, à chaque fois que je relis Hamlet, j'adopte un autre point de vue. C'est une pièce qui bouge avec nous, en fait. Et c'est merveilleux, Hamlet. C'est à la fois tragique, comique, poétique. C'est d'une richesse et d'une philosophie incroyable.
Clémence ?
Oui. Moi, dis donc, bonne question. Je pensais que ça allait être évident, mais en fait, non, tout se bouscule. Oui, j'hésite entre Le Songe d'une nuit d'été et Roméo et Juliette. Après, je trouve que Roméo et Juliette, c'est quand même relativement facile à lire parce qu'on connaît on connaît les grandes lignes. Et puis quand on lit Roméo et Juliette, on se rend compte qu'en fait, il s'agit d'adolescents qui ont 13 et 17 ans. On se rend compte que juste avant Juliette, Roméo était follement amoureux à s'en rendre dingue de la cousine. Donc on se calme un peu avec cette pièce. Voilà, quand on la lit, on se dit « Ah oui, c'est pas tellement comme dans le film, c'est pas tellement ce que je pensais. » Donc peut-être Roméo et Juliette pour découvrir les dessous de l'histoire. Sans mauvais jeu de mots, avec les dessous de Juliette, bien sûr.
Jeanne ?
Et ben moi, je reste sur Roméo et Juliette, comme tout à l'heure, même si, en effet, quand on apprend leur âge, c'est un peu glauque.
Oui.
Et ben moi, je conseillerais alors deux ex aequo, hein, pour moi, La Tempête, que je trouve que j'ai vu pour la première fois dans une version avec des marionnettes et qui ne m'a jamais quitté. Et l'autre, c'est évidemment Othello. Évidemment, pour le personnage d'Othello, étant métis, il m'a évidemment parlé. Mais surtout pour le personnage de Iago, qui résume à lui tout seul, méfie-toi de tes amis, enfin, sois proche de tes amis, mais encore plus de tes ennemis. Et je trouve que Iago incarne divinement ça dans Othello. Par contre, votre personnage préféré?
Ouf, ça va être dur, ça.
Hamlet. Oh.
Hamlet.
Hamlet. Oh, bah oui, quand même. Hamlet.
Ou Ophélia.
Ophélia.
Ophélia plutôt. Ouais.
Et Sarah?
Hamlet.
Hamlet aussi. Bon bah voilà. Il y a quand même un consensus sur Hamlet.
Il y a quelque chose
Hamlet.
Sur Hamlet, hein, clairement.
Sur... Et généralement, on parle de trois périodes en ce qui concerne Shakespeare. Sarah, est-ce que vous pouvez nous en parler? Semble-t-il, il y a trois grands moments clés dans la vie de Shakespeare en termes de production.
Oui, on va dire qu'il y a son début de carrière avec des pièces comme la première tétralogie historique, les Henri VI hein, notamment, et puis quelques comédies de jeunesse. Et puis il y a les pièces de la maturité, on vient d'en parler, Hamlet, Jules César, Macbeth. Et on rentre ensuite, après ces tragédies de la maturité, vers les pièces tardives qui, là, en fait, nous montre un Shakespeare qui rejette les traditions des genres bien ancrés, comme la tragédie d'un côté, la comédie de l'autre, pour arriver à ce qu'on appelle, ça a été dit après la mort de Shakespeare, hein, mais la catégorie des romances. Et ces romances, bah, vous en avez cité une des plus célèbres, c'est La Tempête. Il y a aussi Cymbeline, Périclès, Le Conte d'Hiver. Ce sont des pièces très mélancoliques où se mêlent tragédie et comédie et surtout où apparaît l'idée de la rédemption, de la réconciliation, de la fin heureuse qui arrive alors que tout indiquait que rien d'heureux ne pourrait arriver finalement. Et ça, c'est un Shakespeare qui crée lui-même le genre qu'il veut mettre en avant à la fin de sa vie et c'est assez beau.
Blockbuster sur France Inter.
Je m'étonne que vous jacassiez aussi longtemps, Seigneur Bénédicte. Personne ne vous écoute.
Quoi, ma chère Madame Dédain? Êtes-vous encore en vie?
Et comment se pourrait-il que Dédain meure tant qu'elle aura pour apaiser sa fringale, le Seigneur Bénédicte? La courtoisie elle-même se convertit en dédain quand vous paraissez en sa présence.
C'est que la courtoisie tourne casaque. Pourtant, je suis aimé de toutes les dames, vous seul excepté, et je voudrais du fond de mon cœur avoir le cœur plus tendre, car en vérité, je n'en aime aucune.
C'est un rare bonheur pour les femmes qui leur épargnent d'être troublées par un méchant soupirant. Grâce à Dieu et à la froideur de mon sang, je partage votre humeur en cela. J'aime mieux entendre un bouledogue aboyer aux corneilles qu'un mâle me jurer qu'il m'aime.
Dieu maintienne votre grâce en cette disposition, car elle peut épargner à quelques gentilshommes de cruelles égratignures sur le visage.
Une égratignure ne pourrait davantage déparer un visage tel que le vôtre.
Oh, vous seriez pour un perroquet le meilleur des mets.
Mieux vaut babil d'oiseau que rugissement de bête.
Puisse mon cheval avoir la vitesse de votre langue. Mais pour l'amour de Dieu, poursuivez seul. Moi, j'abandonne.
Toujours vous finissez sur une dérobade. Je vous connais de longue.
Un extrait du film « Beaucoup de bruit pour rien » réalisé par Kenneth Branagh en 1993, adaptation de la pièce de théâtre éponyme de William Shakespeare, publiée en 1600. Shakespeare, c'est aussi un hashtag qui est énormément partagé sur TikTok, sur les réseaux sociaux. ce qui est assez étonnant parce qu'a priori, voilà, autant Taylor Swift et tout ça, on en a l'habitude, mais William Shakespeare encore très populaire sur les réseaux sociaux.
Énormément. En fait, il y a même des universitaires de Cambridge qui ont fait une petite étude là-dessus et qui se sont rendus compte que Shakespeare, c'était l'auteur qui suscitait vraiment sur Internet le plus de mèmes et d'images détournées. Pour revenir un petit peu à beaucoup de bruit pour rien, il y a une adaptation qui s'appelle Tout sauf toi et où en fait c'est clairement adapté de Shakespeare. Et ce qui a fait le succès au box-office de ce film, c'est qu'il a été énormément partagé sur TikTok et où il y a eu beaucoup beaucoup d'extraits. Vraiment, ça a été un... Moi, je voyais que ça en ligne.
Avec Glenn Powell et Sydney Sweeney.
Exactement. Et ça a été énormément partagé. Donc on se rend compte que en fait Shakespeare a encore beaucoup d'influence. Moi, la sensation que j'ai aussi, c'est que en dehors des réseaux sociaux, on va aller essayer de chercher une audience nouvelle, donc d'aller récupérer la Gen Z et de mettre aussi des figures qu'ils aiment beaucoup dans des adaptations. Par exemple, en ce moment, il y a Roméo et Juliette, il y a une adaptation avec Tom Holland, il y en a une autre avec Kit Connor qu'on a découvert dans Heartstopper. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment cette envie d'aller les chercher. Et on parlait tout à l'heure d'Hamlet. Il y a un livre qui revient un petit peu justement sur la création de cette histoire, en fait, qui s'appelle Hamnet, pour le coup, de Maggie O'Farrell, qui raconte en fait comment cette histoire est née suite à un deuil qu'a vécu Shakespeare. Je n'en dis pas plus. Et donc, il y a une adaptation qui est en cours de ce livre. Et en star qui va interpréter Shakespeare, on a Paul Mescal, qui a été beaucoup découvert grâce à la série Normal People. Donc on se rend compte quand même qu'il y a aussi beaucoup de figures que la Gen Z apprécie et les générations du dessus aussi, qu'on va essayer de récupérer où on sait que ça va potentiellement faire le buzz sur les réseaux sociaux.
Clémence Pouletti, vous étiez sensible justement à cette omniprésence sur les réseaux de Shakespeare ?
Pas du tout. Je viens de l'apprendre. Donc, je trouve ça génial.
Donc, vous pouvez rejoindre une énorme communauté existante.
Bah oui, sachez-le. Avec le hashtag Shakespeare.
Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Sarah Tuel, comment vous expliquez cet attrait que Shakespeare exerce sur les jeunes générations ?
Bah, déjà, on peut s'en réjouir. C'est magnifique que à travers les réseaux sociaux, TikTok, autres applications, Shakespeare puisse ainsi continuer à toucher un autre public. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec Shakespeare, c'est que c'est parce qu'il a été sans cesse adapté à un nouveau public qu'il peut donner l'impression d'être universel. Ce n'est pas parce qu'il est universel en lui-même, c'est parce qu'il a été constamment réécrit, reformulé, réadapté à un autre contexte culturel, à un autre public, à une autre époque. Et c'est cette adaptabilité de Shakespeare qui est assez étonnante. Et ça, c'est peut-être à mettre au crédit du fait que lui-même a déjà emprunté des récits à succès et qu'il ne fait lui-même qu'être un passeur.
Et c'est le dramaturge le plus traduit au monde avec Agatha Christie et Jules Verne. Et le point commun de ces trois illustres personnages, c'est aussi une propension à faire de l'écriture de genre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'aventure, dans l'enquête, dans des éléments fantastiques. Et Shakespeare a utilisé beaucoup de personnages de fantômes, de fées.
Absolument. Et même on peut dire que parce que Shakespeare a été très tôt adapté au cinéma, la première adaptation de Shakespeare à l'écran c'est 1899, soit 4 ans après l'invention du cinématographe, on peut dire que Shakespeare a contribué à créer les genres au cinéma. Parce que on peut voir une affinité certaine entre Hamlet et le film de Capet-d'Épée, entre Jules César et Antoine et Cléopâtre et le péplum, entre les comédies un peu loufoque et Guerre des sexes de Shakespeare et les screwball comedies avec Catherine Hepburn et Spencer Tracy dans les comédies classiques hollywoodiennes. Donc Shakespeare a contribué en fait à faire émerger les genres, notre idée du genre au cinéma, et par un effet de boucle, le cinéma a commencé à adapter Shakespeare en s'inspirant des genres cinématographiques aidé par Shakespeare. Vous voyez, il y a cet effet de boucle. Donc, comme quand Kenneth Branagh adapte Henri V en film de guerre, eh bien, il s'inspire des films d'Oliver Stone, Platoon, des films de guerre de Vietnam. Quand il fait Beaucoup de bruit pour rien, il s'inspire bien sûr de la comédie classique hollywoodienne qui a été elle-même nourrie par Shakespeare.
Et à l'instar de Molière, il était aussi acteur, il a créé une troupe, il a joué, mais cet aspect de son travail passe souvent au second plan. Quel était son rôle au sein de ces troupes de comédiens et quel était son rapport au roi? Parce que, évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas faire de si gros succès sans avoir l'aval d'un roi.
Oui, alors d'abord, aval de la reine, puisque c'est sous Élisabeth Ière que Shakespeare va commencer à jouer, à écrire, à gérer sa troupe. Hein. Il était tout cela à la fois. Hein. Il a notamment joué le fantôme du père d'Hamlet. Il a également joué dans As You Like It. Donc, il a eu quelques rôles, mais surtout, son rôle était un rôle de manager, de gestionnaire et d'écrivain, de dramaturge. Et c'est intéressant de voir aussi que, à l'époque, Shakespeare allait écrire des rôles pour chacun. Les acteurs n'avaient pas le texte complet de la pièce. Ils n'avaient que leur rôle. C'est pour ça qu'en anglais, le terme rôle se dit part. Il n'avait qu'une partie du texte. Le papier coûtait cher aussi, hein. Donc voilà, on ne donnait à chacun que le rôle qu'il allait jouer, la partie qu'il allait jouer.
Et comment ça se passait du coup pour les dialogues? Alors je sais que Shakespeare est connu pour les monologues, mais il n'y avait pas que ça. Donc comment ça se faisait pour les dialogues? Est-ce qu'ils avaient aussi les dialogues de la personne avec qui ils étaient censés interagir?
Alors oui, et ils avaient aussi la dernière réplique avant leur enchaînement. Et c'est ce qu'on appelle the cue. Le cue, ça veut dire en fait la ligne qui va faire que on sait que c'est à nous de parler. Et Shakespeare joue beaucoup là-dessus dans des dialogues métadramatiques. En fait, Shakespeare écrit des pièces sur le théâtre, qui parlent de théâtre. Et on a beaucoup de... À un moment, dans Beaucoup de bruit pour rien, Beatrice dit à Claudio « Mais comte, allez-y, parlez, c'est à votre tour, this is your cue. » Et donc, on a beaucoup de jeux qui met en avant le système théâtral, le fonctionnement du théâtre. C'est décrit, on peut le voir dans le contenu de la pièce elle-même.
Frédéric Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Hey, oncle Oscar, devine quoi?
Je déteste les devinettes.
Je vais devenir roi de la Terre des Lions.
Quelle joie.
Mon père m'a montré le royaume. Et c'est moi qui gouvernerai tout.
Oui. Pardonne-moi de ne pas trépigner de bonheur. Problème de lombago.
Oncle Oscar, quand je serai roi, toi tu deviendras quoi?
Le bouffon du roi.
Ce que t'es bizarre.
Tu n'as pas idée. Alors, ton père t'a montré tout le royaume, dis-tu?
D'un bout à l'autre.
Y compris ce qu'il y avait derrière la colline de la frontière nord?
Ben non... Il m'a interdit d'y aller.
Et il a absolument raison. C'est bien trop dangereux. Seuls les braves osent aussi aventurer.
Moi, je suis brave. Je veux savoir.
Je regrette, mais je dois garder le secret.
Pourquoi?
Simba, ma seule préoccupation est de protéger mon neveu préféré.
Oh, ça c'est facile, je suis ton seul neveu.
Raison de plus pour être doublement attentif. Un cimetière d'éléphants n'est pas idéal pour un prince. Oh.
Un cimetière de quoi? Waouh!
Oh, suis-je bête? C'est parti tout seul.
Un extrait du dessin animé Le Roi Lion, film d'animation de 1994, réalisé par Rob Minkoff et Roger Allers. Simba et Scar sont joués en français par Dimitri Rougel et Jean Piat. Alors, une autre adaptation non officielle d'un mythe shakespearien. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'homme avec vous, Jeanne Seignolle. Vous avez évoqué ce moment de la vie de Shakespeare où il avait... était confronté à un deuil. C'est vrai qu'il il faut qu'on parle aussi de sa vie personnelle. Il a perdu un enfant qui avait 11 ans. Ça a marqué son œuvre également.
Complètement, et je pense que c'est pour ça qu'on remarque différentes parties un petit peu dans sa vie, et qu'en fait, forcément, ce qu'il traverse, ben, on le lit dans ses textes, les périodes un peu plus sombres ou les moments de deuil, ben, ça va se retranscrire dans les pièces qu'il est en train d'écrire, etc.
Est-ce que ça a été un succès immédiat, Sarah Atuel? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est révéré, c'est devenu un adjectif, etc. Mais est-ce que pour ses contemporains, il était déjà considéré comme le génie que l'on pense qu'il est aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Les gens se pressaient dans les théâtres de la rive sud de la Tamise, hein, là où étaient situés les théâtres, en dehors de la juridiction de Londres, du maire de Londres. Et oui, Shakespeare a beaucoup de succès dès qu'il commence à écrire. Et il y a plusieurs milliers de personnes chaque après-midi qui se pressent au Globe. Ce n'est pas très cher, hein, d'assister aux pièces de Shakespeare. Il suffit de un penny et on peut assister au parterre, hein, c'est-à-dire sans s'asseoir, debout, en entourant la scène, qui comme ça se projette dans le public. Et alors c'est un peu plus cher pour s'asseoir dans les étages du Globe, mais c'est un immense succès dès le début. Et un film comme Shakespeare in Love, hein, de John Madden, 1998, le montre bien.
Clémence Pouletti, aujourd'hui vous êtes fan de William Shakespeare, est-ce que vous avez trouvé des héritiers ou des héritières qui vous mettent dans le même état que l'œuvre de Shakespeare?
Alors, qui me mettent dans le même état, non, mais qui me mettent dans un état différent mais intense, oui. Pour Shakespeare, il influence beaucoup la communauté d'écrivains contemporaines. Je pense notamment à Éric Pessan, qui a publié l'an dernier « Ma tempête », pas « La tempête, ma tempête », l'histoire d'un metteur en scène qui devait mettre en scène « La tempête » de Shakespeare. Et puis qui n'a pas pu, on lui apprend que ça ne se fera finalement pas. Donc après, il s'en déverse toute une réflexion sur ce qu'est l'art, l'utilité de l'art, de l'écrivain. Et c'est un roman qui est tout à fait passionnant, qui se déroule en trois actes. Et que, oui, il m'a fait de l'effet ce livre, il m'a fait un grand effet parce qu'il parle de l'utilité de la littérature. Et ça, j'aime beaucoup, c'est une question que j'aime beaucoup. Sinon, je pense à un autre écrivain, mais qui est américain, qui s'appelle Nathan Hill, qui a publié il y a quelques années « Les fantômes du vieux pays », c'est en 2016, il me semble, publié chez Gallimard, et qui, là, cette année, a publié un livre qui s'appelle « Bien-être ». Et en fait, ce sont des romans de 700 pages environ. C'est très shakespearien, parce que c'est à la fois drôle, c'est à la fois dramatique. À chaque fois, ce sont des histoires, donc là, où, avec un enfant qui grandit, ou bien un couple qui se forme, et on va les voir évoluer, et tout en rapport avec la société. Les fantômes du vieux pays m'a fait beaucoup penser effectivement à Shakespeare. Et puis, je tenais à dire également que quand même des pièces comme La Mégère apprivoisée de Shakespeare sont aujourd'hui définitivement utilisées pour montrer la misogynie de certains, voire certaines. Parce que La Mégère apprivoisée, quand même, se conclut sur une scène où les hommes de parient sur qui a la femme la plus soumise. Donc c'est extrêmement violent pour les femmes. Et je trouve que, bon, déjà, il était en avance sur son époque de penser à ça. Et de s'en moquer, en fait. C'est une adaptation au cinéma de 10 Things I Hate About You, en français 10 bonnes raisons de te larguer, avec Heath Ledger, le regretté.
Jeanne, est-ce que vous voyez d'autres héritiers ou héritières à l'esprit de William Shakespeare?
C'est une question vraiment difficile, je trouve. Je pense que l'équivalent, pour moi en tout cas en français, ce serait Marivaux, mais bon, c'est pas très récent. Où je trouve que pareil, dans les pièces, on retrouve beaucoup de thèmes en fait qui finalement nourrissent vraiment l'imaginaire. Je vais répondre un petit peu à côté, je me permets, mais je trouve qu'en tout cas, ce qui permet de montrer l'influence d'une œuvre et d'un auteur ou d'une autrice, c'est à partir du moment où on a des mots d'un livre que parfois les gens n'ont pas lu, qui deviennent des mots qu'on utilise dans le vocabulaire tous les jours. Et donc, en fait, quand on parle de Shakespeare, moi, je pense beaucoup aussi à George Orwell, qui a écrit La ferme aux animaux et 1984. Et aujourd'hui, pareil, on dit shakespearien, on dit orwellien. Tout le monde connaît la phrase « Big Brother te regarde ». Donc, ça me fait surtout penser à ça.
Sarah Tuel, est-ce que vous, vous voyez une sorte de filiation chez un auteur, réalisateur contemporain ?
En fait, moi, je verrais plutôt cela dans... La richesse shakespearienne, elle est passée, selon moi, hein, c'est très personnel, mais dans l'écriture riche et collective des séries télévisées, de certaines séries télévisées, des showrunners comme David Lynch ou Damon Lindelof, qui expérimentent des structures narratives très complexes, des jeux sur les identités, sur les révélations différées, où les négociations culturelles sont extrêmement riches, où il y a un discours sur le médium lui-même, hein, comme Shakespeare parlait de théâtre dans son théâtre, les séries qui parlent de ces réalités, qui entremêlent les intrigues, la tragédie, la comédie, c'est là pour moi où se situe l'héritage shakespearien.
Mais d'ailleurs, Sarah, puisque vous me lancez sur le sujet, pour préparer cette émission, quand j'ai dit que j'allais faire une émission sur Shakespeare, les gens m'ont dit, bah, attendez, d'habitude tu parles de jeux vidéo, tu parles de super-héros ou ce genre de choses. Et moi, ma justification était de dire, mais je suis convaincu que si William Shakespeare était en vie aujourd'hui, ça serait un showrunner de séries HBO ou de la BBC. Est-ce que vous allez dans mon sens ? Avec votre appui, je pense que j'aurais l'air plus crédible.
Alors, c'est toujours difficile de savoir hein, de ce que Shakespeare aurait fait. On ne peut pas l'interviewer, malheureusement. Mais après, c'est le ressenti de chacun. C'est vrai qu'il y a, certaines séries télévisées dont la richesse d'écriture, qui offre autant de perspectives, reprennent un certain esprit shakespearien. Ça, je n'en doute pas. Qui, surtout, construisent un regard englobant et ambivalent sur les protagonistes, comme Shakespeare le faisait. C'est-à-dire que les héros sympathiques peuvent se révéler des criminels de guerre horribles, hein, comme certains personnages d'Henri V, ou les plus grands scélérats peuvent nous faire comprendre leurs motivations et acquérir une profondeur exceptionnelle, comme on le voit dans Richard III. Pour moi, sans Richard III, il ne pourrait pas y avoir de Dexter ou de Frank Underwood dans House of Cards. Ça, je n'en doute pas.
Eh bien, merci beaucoup, Sarah Tuel. Merci, Clémence Pouletti. Merci, Jeanne Seignol, d'avoir participé à Blockbuster pour évoquer ce grand monsieur et l'œuvre de William Shakespeare. J'aimerais remercier également Étienne Bertin, qui réalise cette émission, une émission préparée par Lisiane Larbani. Et à la technique, aujourd'hui, Cédric Diallo. Merci beaucoup. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler avec moi directement sur Instagram, @fredsigrist.
Et à toi, brève chandelle, la vie n'est qu'une ombre mouvante.
Pourquoi tout le monde parle cette langue de dingue ?
Cette langue de dingue est l'œuvre de l'immortel poète William Shakespeare.
Eh ben si tu le vois au ciel, dis-lui que c'est nul.